France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le sacre de la France en Coupe Davis. Le 1er décembre 1991, l'équipe française masculine de tennis remporte cette compétition par nation au terme d'une finale spectaculaire. 59 ans après l'exploit réalisé par les mousquetaires de Jean Borotra, Yannick Noah et sa bande déjouent tous les pronostics et l'emportent. Et quelle victoire ! Les Français terrassent la meilleure équipe du monde, la Dream Team USA, emmenée par deux de ses étoiles, Pete Sampras et André Agassi. Leçon d'humilité, de détermination et de courage, ce succès hors norme repose en coulisses sur une extraordinaire amitié. L'aventure d'une bande de copains pas comme les autres, souvent décriés pour leur style ou les choix de leur entraîneur par les experts du tennis, parfois moqués par les journalistes, mais toujours admirés et soutenus par leur public, ce qui est l'essentiel. Retour donc sur l'histoire de cette finale de la Coupe Davis 91, remportée par les Lecomte, Forget, Delettre et Butch, sous la houlette de leur coach Agelauer et Dobliker, emmenés bien sûr par leur légendaire capitaine Yannick Noah. Nos invités aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis français, Henri Lecomte, finaliste de Roland-Garros en 88 et donc vainqueur de la Coupe Davis 3 ans plus tard. À ses côtés, la voix du tennis sur les antennes de Radio France, notre confrère Fabrice Abgral. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
On a devant nous un gros gâteau, il faut qu'on ait très faim parce qu'il faut qu'on bouffe ce gâteau, et que si jamais... On arrive et que quelqu'un nous le prend, et si les Américains le prennent, on n'a rien à bouffer, quoi. Et c'est ça, on veut gagner. C'est vraiment une opportunité pour nous de vivre quelque chose de fabuleux, de vivre un moment extraordinaire, un truc dont on se souviendra tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Jeudi 28 novembre 1991, Hôtel de Ville de Lyon. C'est sous les lambris et à la lumière d'immenses chandeliers que se déroule le tirage au sort de l'ordre des matchs de la finale de Coupe Davis. L'épreuve doit débuter le lendemain dans le Grand Palais des Sports de la ville, à Gerland. Présente, une caméra de France 3 filme la cérémonie. Assis de part et d'autre de la salle, les délégations françaises et américaines s'observent, sans dire un mot. Au milieu, les organisateurs ont installé sur un podium le saladier d'argent de la Coupe Davis, trophée mythique remis aux vainqueurs de la compétition. Côté français, les mines sont graves et les visages sont tendus. Vêtus de leurs survêtements blancs et bleus, les joueurs Guy Forget, Henri Lecomte, Arnaud Butch et Olivier Delettre sont concentrés, très concentrés. Seul leur capitaine, Yannick Noah, les bras croisés, donne l'impression d'être assez décontracté. Comme d'habitude d'ailleurs, la cool attitude qu'on lui connaît. En face, il y a l'ogre américain, Sampras et Agassi en tête. Avec leurs survêtements colorés étincelantes, blancs, rouges et bleus, ils renvoient comme une sensation de puissance et d'assurance. À l'image de leur capitaine, Tom Gorman, qui, façon G.I., mâchouille tranquillement son chewing-gum lors du discours du président de la fédération. Et preuve qu'ils sont tous sauf stressés, ils ont déjà réservé à Gueuleton le soir même chez Bocuse, fête de Thanksgiving oblige. Au micro de Sophie Tutkovitch de France Inter, le chef étoilé lyonnais donne les grandes lignes du menu.
Ce soir, ils vont manger une dindonne de braise de chez mon ami Viral, et puis ils ont une soupe de courge, une crème de courge et une soupe de truffe, ça dépend. Ou ils auront soupe de truffe ou soupe de courge.
Et pour accompagner ça?
Eh bien, bien sûr, du Beaujolais et puis du Beaujolais nouveau, on est dans la région.
Et est-ce qu'il y aura du Coca-Cola et du ketchup, puisqu'il paraît qu'Agassi ne peut pas s'en passer?
Oui, il y a du Coca-Cola diète et il n'y a pas du ketchup, mais il y a la fameuse sauce un peu confiture qu'ils nous ont amenée et qu'ils vont manger avec la dindonne, pourquoi pas.
Sur le papier, cette rencontre entre l'équipe de France de tennis et celle des États-Unis, c'est un peu comme si les Français rencontraient les Italiens aujourd'hui. Aucune chance. En 91, pour cette Coupe Davis, les Américains, tenants du titre, sont archi-favoris. Est-ce pour cette raison qu'ils n'emmènent avec eux ni John McEnroe, incroyable, ni Jim Courier, ni même Mike Chang? Est-ce pour cette raison encore que leurs joueurs étaient en vacances une semaine plus tôt? Se sont-ils dit, la France, on va la bouffer? Ah, évidemment, sur ce point, rien n'est sûr. C'est peut-être aussi un choix tactique du coach. C'est son rôle. Dom Gorman semble avoir misé sur la jeunesse, la fraîcheur et la fougue de nouveaux jeunes joueurs, considérés comme les meilleurs de leur génération. De toute façon, ça fait des décennies que les Américains dominent le tennis mondial. Voilà, on en est là, la veille du premier match de cette finale de Coupe Davis, et voilà un an que Yannick Noah est aux commandes de l'équipe de France de tennis. Une équipe longtemps respectée sur les courts, mais qui a perdu de sa superbe au fil des années. Au point même de frôler l'élimination du groupe mondial l'an passé, ce qui aurait été synonyme de non-qualification pour cette Coupe Davis. À cela s'ajoutent des tensions en interne entre la fédération et Noah, ainsi que les pics acerbes de certains journalistes, qui considèrent le vainqueur de Roland-Garros 83 comme trop imprévisible, ingérable. Yannick Noah est un nom qui plaît au public, beaucoup moins ceux qui l'emploient. Exemple. Afin de préparer au mieux ses joueurs à la finale, Noah choisit de les mettre à distance des caméras et des curieux de toutes sortes. Lecomte, Forget et le reste de la bande viennent donc peaufiner leur préparation physique, technique et mentale chez lui, dans sa villa de Montreux en Suisse. Harcelé par les journalistes pour savoir qui jouera et dans quel ordre, Noah se montre à chaque fois évasif. On verra bien, prend-il l'habitude de répondre en conférence de presse. Mais loin d'être anodine, cette attitude s'inscrit dans une stratégie pour perturber au maximum le choix tactique de l'adversaire. Et c'est de bonne guerre. Ce n'est que la veille du tirage au sort, lors d'une banale question de la journaliste de France Inter Nicole Guillard, que Yannick Noah donne le nom des joueurs, mieux même.
On sait déjà que Guy Forget va commencer contre Agassi et que Sampras jouera contre Lecomte. Bon, qui va jouer le premier, je crois que ça n'a pas d'importance. Les deux joueurs sont préparés pour un seul et unique objectif, c'est de gagner le match. Et puis voilà, alors on va essayer cette fois-ci de gagner et puis surprendre ceux qui n'y croient pas. Nous on y croit, on travaille pour ça, on fait le maximum. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait des surprises, en y croyant. J'ai jamais de toute ma carrière gagné des matchs ou battu des gars supposés plus forts que moi en rentrant sur le court sans y croire.
Yannick capitaine ou Yannick capitaine joueur?
Bien, pour l'instant, je suis capitaine et puis suivant ce qui se passe le premier jour, suivant ce qui se passera pour le double, avant le double, on verra si j'ai besoin de faire entrer le joueur ou pas.
Elle est bien bonne. Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France, pourra se retrouver sur le court ce week-end à Lyon. L'information fait aussitôt la une et de nombreux commentateurs estiment en effet possible qu'on le voit jouer dans le match en double à la dernière minute. Pourtant, comme l'expliqueront par la suite les journalistes Fabrice Abgral et François Tomaso dans leur livre consacré à cette affaire, le règlement est formel. Seuls les quatre joueurs dont les noms ont été annoncés au tirage au sort peuvent entrer sur le court. En l'occurrence, Lecomte, Forget, Botch et Delettre. Alors, Noah a-t-il gaffé? S'est-il trompé? Écrivent les journalistes avant de conclure. Coup de poker ou l'heure destinée à tromper l'ennemi? Noah fait tout pour semer le doute dans l'esprit des Américains. Voilà, comme ça c'est clair. Le lendemain midi, autrement dit le vendredi 29 novembre, Américains et Français ont rendez-vous pour leur premier match dans un palais des sports de Gerland plein à craquer. Parmi les 8300 spectateurs, nombreux sont ceux qui veulent y croire. Chez les journalistes, en revanche, les avis sont plus nuancés et les choix de Yannick Noah ne font pas l'unanimité. Si Guy Forget, classé 7e joueur mondial et récent vainqueur de l'Open de Paris-Bercy, fait face à l'Américain Pete Sampras, et qui n'a aucun doute de la légitimité, du talent et des épaules pour être le numéro 1 français, qu'en est-il du choix fait par Noah d'aligner Henri Lecomte comme numéro 2 de l'équipe? Paris osé, risqué, voire complètement fou, car en 91, Lecomte n'est plus Lecomte. En pleine traversée du désert, même, touché par de multiples blessures au dos et des douleurs sciatiques, le joueur de 28 ans qui s'était classé dans le top 10 mondial figure maintenant à la 159e place. Et nombreux sont les journalistes qui lui promettent une fin de carrière anticipée. Pire, dans le petit monde du tennis, Lecomte traîne derrière lui l'image d'un joueur impulsif, voire parfois caractériel. Alors, Pourquoi le sélectionner ? Face à Sampras, le comte a-t-il seulement une chance ? Il est un peu plus de 13h30 lorsque Guy Forget entre le premier sur le court du Palais des Sports de Lyon. Sur ses épaules pèse la responsabilité et surtout les espoirs de tout un pays. Une lourde charge. Trop lourde peut-être. Car d'emblée, Forget affiche un visage crispé, nerveux. En quittant le vestiaire, il n'a pas pu échapper à cette banderole placardée sur l'un des murs et sur laquelle on peut lire « Ne baissez jamais les bras, allez les gars, marchez, marchez la tête haute !» Mais Forget le sait, Agassi est un gros morceau, très gros morceau. Au micro de France Inter, l'un des entraîneurs de l'équipe de France, Patrice Agelhauer, décrit l'adversaire américain.
C'est quelqu'un qui ne communique avec personne, qui vit avec son entraîneur et ses proches, quelqu'un qui s'isole du reste du monde. Et c'est une sorte de puncher, c'est un véritable boxeur. Il rentre sur le terrain pour tuer l'autre. C'est quelqu'un d'assez explosif dans sa manière de vivre et il est sur le terrain comme il est dans la vie. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, il tranche avec tous les autres joueurs. C'est une personnalité tout à fait en dehors des normes. Je dirais des autres tennismen.
Mais comme c'est un solitaire, comment on peut expliquer son intérêt pour la Coupe Davis ?
Écoutez, il est comme était McEnroe, je crois. On peut les comparer un petit peu. Je crois que ce sont des gens qui sont complètement nationalistes. Agassi passe le moins de temps possible ailleurs qu'aux États-Unis. Donc pour lui, ce qui compte avant toute chose, c'est son pays. Il est bien que là-bas. Tout ce qui lui plaît, ce sont ses hamburgers, ses cheeseburgers, ses McDonald's et son Coca-Cola.
Silence, s'il vous plaît.
Dès le premier jeu, Forget entre dans la bataille avec fougue. Il ne fait aucun cadeau, aucune erreur. En face, Agassi, lui aussi, très solide, constant, calme. Mais après une heure de jeu, c'est le Français qui emporte le premier set. Le public hurle de joie et commence à croire en la victoire. Seulement voilà, la suite de ce match est d'une toute autre tournure. Usé, fatigué, fébrile, après le premier set, Forget se retrouve très vite dépassé par les coups phénoménaux de l'Américain. Campé dans le fond de court, Agassi allonge ses balles, frappant fort, toujours plus fort. Gauche, droite, Forget court, Agassi le balade et enchaîne point, jeu et set à un rythme infernal. Pris vertige, le public de Gerland, si bruyant, se fait maintenant silencieux. Au fil des minutes, les spectateurs assistent à une scène qui glace le sang. Seul de son côté du court, Forget est isolé, malmené, épuisé, il semble perdu. Au bout de 2 heures de jeu, son calvaire se termine. Victoire écrasante d'Agassi. Forget rentre au vestiaire, le cœur gros, les larmes aux yeux.
Je sais que match. Après 2h51 minutes de jeu dans ce premier simple, André Agassi donne le premier point aux États-Unis.
Coup de froid sur Lyon, les États-Unis mènent 1-0. Et désormais, c'est au rouleau compresseur Pete Sampras, l'homme qui enchaîne les aces, et Henri Lecomte, ancien champion encore convalescent d'entrée en scène. C'est alors que dans le vestiaire se joue une scène étonnante. Allongé sur la table de massage, le regard à moitié dans le vide, Forget rejoint par le comte qui arrive en trombe. Le numéro 2 français a subi le début du match depuis sa chambre d'hôtel. Certains pourraient le croire abattu. Eh bien au contraire, le comte est surexcité à l'idée d'affronter Sampras. Forget se redresse, il s'excuse d'avoir perdu auprès de son ami. Alors le comte s'approche, lui met la main sur l'épaule et lui lance cette phrase hallucinante vu le contexte. T'inquiète pas Guy, je vais lui mettre une branlée à l'autre. Et on va revenir au vestiaire, ça va faire un partout, tu verras. La suite, c'est Guy Forget qui la raconte, plus tard, lors d'une interview donnée à la Fédération Française de Tennis.
Au moment où il va partir sur le terrain, je lui dis « Allez Henri, c'est à toi maintenant, tu peux le faire. » Et là, il fait cette sortie mythique et il dit « Vous allez voir les gars, il va voir qui c'est Henri Lecomte, parce que moi, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, et puis je vais lui faire la volée en sautant, et je vais lui faire le passing de doigts, et puis machin, et ouais, les gars, là. » Et il part sur le terrain en hurlant. On dit « Ouais, ouais, vas-y Henri, ouais, super, ouais, ouais. » Et là, on dit « Il est fou, quoi. Le mec, il est habité. »
Il y a quelques heures encore, personne ne misait sur les chances de Lecomte de tenir le rythme fou qu'allait probablement lui imposer l'América sans Pras. Pourtant, après quelques minutes de jeu, le France s'est fait mentir tous les pronostics. Dans les yeux de Lecomte, il y a à ce moment-là comme une rage. Oui, l'envie de jouer son meilleur tennis, celui des années 80, constitué de vitesse, de montée au filet, de risque en un mot, de spectacle. Ce tennis qu'il avait emmené jusqu'en finale de Roland-Garros en 88. Finale perdue face à Mats Wilander, hélas, et qui était le début de sa période de doute et de blessure. Mais sous l'impulsion et avec l'aide de Yannick Noah, Lecomte s'entraîne sans relâche depuis des mois. Et le travail finit par payer. Sampras est un prodige du tennis, voilà un an qu'il domine la scène et qu'il enchaîne les titres. Il détiendra longtemps le record du nombre de grands chelems gagnés. Mais ce jour-là, l'Américain joue face à un mur. Un mur qui a pour nom Lecomte et sur lequel tous ses coups ricochent et qui le renvoie plus loin au fond du court. Comme en état de grâce, Lecomte ne fait aucune erreur et remporte le premier set 6-4. Alors le public de Gerland s'éveille. Le palais Omnisport se transforme en chaudron. Assis sur le banc, Yannick Noah reste ultra concentré. À chaque pause ou changement de côté, il parle à Henri. Il le met dans une bulle. Ne pas penser à la suite, se concentrer uniquement sur le prochain point. Résultat, un épisode que Lecomte lui-même qualifiera plus tard de hold-up flamboyant. Une victoire de panache du français en 3-7 face au prodige américain. Sensation.
En pleine extension, il était à 1 mètre du sol, Henri Lecomte. On va le revoir au ralenti, c'était magnifique.
C'est le plus beau, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois que j'ai eu des moments difficiles dans ma carrière. J'ai joué les grandes finales et là c'était un point important pour moi. Donc on s'est surtout tous très bien préparés mentalement. Et puis les gars étaient derrière moi et je voulais prouver aussi à Guy que j'étais là. Donc c'est ça la force d'une grande équipe, c'est de, je pense, c'est de pouvoir amener un point. Maintenant on n'a pas gagné, mais on est dans de meilleures dispositions pour demain.
Un partout, la France et les États-Unis sont à égalité dans cette finale de Coupe Davis. Place désormais au match en double. Avec ce mystère savamment entretenu par Yannick Noah, sera-t-il sur le court pour affronter les Américains Ken Flack et Robert Seguso ? Réponse prévue pour le lendemain à Gerland.
Oh,
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Coupe Davis 91, le sacre des Français.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
France Inter. France 1, États-Unis 1. Un résultat inespéré pour l'équipe de France de tennis à Lyon à l'issue de la première journée de la finale de Coupe Davis. Tout avait bien mal commencé en effet pour les tricolores. Guy Forget, le chef de file, ayant été battu en 4 manches dans la première rencontre par André Agassi. Ses craintes étaient d'ailleurs bien fondées. En véritable sauveur est alors entré en piste sur le court Henri Lecomte. Dans un très grand jour, le joker de Yannick Noah, sublimé par un fantastique public dans les tribunes de Gerland, a sorti le grand jeu, le très grand jeu, pour donner la leçon au vainqueur du dernier Masters, le jeune Pete Sampras, écœuré par les coups de génie du gaucher français. Du coup, Yannick Noah, pour un double capital cet après-midi à 15h, décidait de réunir la paire de gauchers, Forget, Lecomte, pour la 8e fois de leur carrière en Coupe Davis. Une assurance tout risque, puisque les deux hommes, jusqu'à présent, n'ont jamais connu la défaite dans cette compétition.
Samedi 30 novembre 1991, Lyon, deuxième jour de la finale de la Coupe Davis. Cette fois encore, le Palais Omnisports de Gerland est plein à craquer. C'est Yannick Noah lui-même qui avait lancé la rumeur de son possible retour sur le court pour jouer le double, souvenez-vous. Eh bien, il avait bluffé, évidemment, stratégie. Pour ce match décisif, il renvoie Forget dans l'arène, associé donc à Lecomte. Autrement dit, le perdant et le héros de la veille vont affronter le duo Flax et Guzzo, invaincu dans la compétition. Sur les images filmées par France 3, on aperçoit le public debout pour applaudir l'entrée de Guy Forget et d'Henri Lecomte sur le terrain. Le regard des deux joueurs traduit leur concentration, mais surtout leur détermination. Rien à voir avec ce qui s'est passé hier, lorsque Forget a donné l'impression d'arriver sur la pointe des pieds, pétrifié par l'enjeu, non. Cette fois, les Français sont venus pour gagner. Et ça, leurs adversaires américains vont très vite l'apprendre à leurs dépens. Car dès les premiers jeux, Forget et Lecomte sont au diapason. Synchronisés, efficaces, ils imposent leur rythme et baladent Flack et ses Guzzo, pourtant considérés comme les meilleurs joueurs de double au monde. Mais là, ils semblent comme impuissants. Pris de court, de vitesse et de technique, le coup près tombe sur la Dream Team USA en moins d'une demi-heure. Premier set 6-1 pour la France. Déchaîné lors de son match la veille contre Pete Sampras, Henri Lecomte donne aujourd'hui encore l'impression d'un lion enragé qui se bat pour arracher chaque point. Il enchaîne les aces, à ses côtés Forget retrouve sa confiance, son punch, son talent. Les Français enchaînent les coups gagnants à la volée, font plier une nouvelle fois les Américains, 6-4. Sur le bord de court, Yannick Noah est debout, il exulte, il saute, mime des gestes comme s'il avait lui aussi une raquette en main. C'est à croire qu'ils sont en réalité 3 sur le court côté français ce jour-là. Noah ne lâche pas ses joueurs du regard. À chaque pause, il produit, reproduit la même scène. Il s'assoit à côté des joueurs, leur met la main sur les épaules, il leur parle encore et encore. Meneur d'homme, coach, rien à dire, Noah fait le job. Mais surprise, dans le troisième set, les Américains se reprennent et l'emportent 6-4. L'espoir, voire la certitude, revient du côté américain. Mais c'est décidément bien mal connaître cette équipe de France de tennis. Minutes plus tard, Forget et Lecomte enfoncent le clou et plient le quatrième set 6-2. La France mène 2-1 face aux États-Unis. L'arbitre n'a même pas le temps d'annoncer le résultat, que Yannick Noah est déjà au milieu du court. Il se jette dans les bras de ses joueurs. Fabrice Santoro, lui qui n'a pas été sélectionné pour jouer cette finale, plie le bras et serre le poing, lui aussi veut y croire. De l'autre côté du terrain, c'est un tout autre spectacle que filment les caméras de France 3. Côté américain, en effet, tous semblent abasourdis par ce qui vient de leur arriver. Le flamboyant Tom Gorman a le regard des mauvais jours, sans doute bien conscient que la France vient peut-être de prendre une option sur la victoire. Présent dans les tribunes de Gerland, l'une des plus grandes gloires du tennis français n'aurait voulu louper ça pour rien au monde. Il s'agit de Jean Borotra, bien sûr, un ancien mousquetaire âgé de 93 ans. ému. Il confie sa joie au micro de France Inter.
C'est du très beau tennis. Vraiment, tous les deux ont été très brillants. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce qu'ils ont tous les deux une très belle volée. Ils auraient pu gagner même plus facilement. Ils sont laissés aller un petit peu un moment. Et les autres, qui sont une équipe très redoutable, se sont repris. Et à la fin, ils ont dû faire un gros effort, qu'ils ont fait d'ailleurs pour gagner, et qui a enchanté tout le monde, parce qu'ils les ont obligés à jouer très très bien.
Vous pensez que la France peut gagner maintenant ?
On a une chance. Sur deux matchs, on a une chance. Surtout que les deux joueurs jouent très bien.
Pour la première fois dans cette finale, la France est devant et surtout, elle a désormais l'ascendant psychologique sur son adversaire. Pour autant, en OS, à bande de ça, rien n'est gagné. En conférence de presse d'après-match, Forger et Lecomte partagent leur joie mais restent modestes. Le plus dur reste à faire, arracher ce dernier point dans l'un des deux simples à venir le lendemain. De retour à l'hôtel, les Français dînent rapidement et partent directement se coucher. La nuit va être courte. Dans sa chambre, Yannick Noah n'arrive pas à dormir. Dans sa tête, il se passe et se repasse le film de la journée. Et cogite tant et plus. Les choix, les décisions prises jusqu'ici. Faut-il changer quelque chose demain à la dernière minute ou continuer avec la même tactique? 23h, minuit, 1h du matin, les heures défilent sur le réveil et Noah ne dort pas. Le capitaine de l'équipe de France se rhabille et part marcher dehors en direction de la place Bellecour. Il longe plusieurs bars dans lesquels il aperçoit des supporters français. Alors il entre, puis dans un autre bar, et encore un. Et à chaque fois, il voit l'excitation de tous les fans. Quelle responsabilité! Et pour quel match Forgé s'embrasse? Un remake de la finale de l'Open Bercy un mois plus tôt, où le Français l'avait remporté sur l'Américain. Et lui aussi a eu beaucoup de mal à dormir cette nuit-là.
Je me souviens de la tension de la veille du match, c'est-à-dire que je suis à l'hôtel et je ne peux pas dormir. Et je me souviens, j'appelle Yannick et j'ai l'impression dans ma chambre, j'entends du bruit. Donc à 1h du matin, je lui dis, je ne peux pas aller dormir dans ta chambre. Il me dit, si tu veux, donc je vais dormir dans sa chambre. J'arrive toujours pas à dormir. Je ne peux pas dormir parce que je sais ce qui m'attend. Cette nuit-là, je crois que je dois dormir 1 ou 2 heures. Quoi. Je ne peux pas dormir. J'arrive au petit déjeuner, ça va Guy, ouais, super, t'as bien dormi. Ouais, ça va, enfin, j'ai passé une nuit épouvantable.
Dimanche 1er décembre 1991, troisième et dernier jour de cette finale de la Coupe Davis. Guy Forget contre Pete Sampras. Dans leur livre consacré à ce récit national, oui, il en a le statut, les journalistes Fabrice Abgral et François Tomazo racontent. Gerland offre aujourd'hui un visage jamais vu en France pour un match de tennis. Supporters au visage peint, cornes de brume, drapeaux, banderoles, holà n'en plus finir. Les gradins sont en ébullition. Lorsqu'on circule sous les tribunes, c'est un martèlement constant de pieds à l'unisson, un immense cœur qui bat, une gigantesque dynamo. À maintes reprises d'ailleurs, l'arbitre doit réclamer le silence afin que le match puisse commencer. Ça promet. Service Forgé, premier point, Forgé. La suite, c'est une sorte de remake du premier match du vendredi. Forger gagne la première manche après avoir sauvé une balle de 7 dans le tie-break. Puis il perd la deuxième. Sans doute le public sent-il alors qu'il lui a aussi un rôle à jouer dans cette finale. Et que c'est maintenant ou jamais. Dans les minutes qui suivent, les encouragements redoublent, les applaudissements également. Guy Forger, littéralement porté par 8000 spectateurs. Et par son capitaine, Yannick Noah, surexcité. Il hurle tellement fort sur son joueur que tout le monde peut l'entendre. « Allez, avance Guy, avance, te laisse pas bouffer !» Et ça marche. Comme libéré, Forgé avale un à un les jeux du troisième set. Il lobe, il smash, il est méconnaissable. Le Français remporte le set par 2 aces d'affilée. Nous voilà donc au 4e et dernier set. La victoire de la France ne tient qu'à 6 jeux. Une victoire si proche sur le papier, mais pourtant si loin quand on est sur le court.
Quel point, quel cadeau donné.
Silence, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame le jeu.
forgé, bien conscient qu'il a dans sa raquette la victoire finale. Et cette fois, il va aller au bout, sans douter, sans fléchir, sans hésiter. Le set est serré et le score grimpe vite à 5 jeux à 4 en faveur du Français. Et cette fois, Forger sert pour la victoire. 4 petits points séparent les Français du saladier d'argent de la Coupe Davis. En face, Sampras tente tout pour le tout pour débreaker. Il se crée d'ailleurs 2 balles de jeu, 15-40. Nouveau moment de doute, car encore une fois la partie pourrait basculer si jamais l'Américain l'emportait dans ce jeu et s'emparait finalement du set. Guy Forget va alors jouer son meilleur tennis, celui qui l'a placé dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Il enchaîne un ace, un revers gagnant, un deuxième ace. Il sert alors pour le gain du jeu, du set, du match et de la victoire en Coupe Davis. Sur les images de la télé, on voit Guy Forget adresser un dernier regard à Yannick Noah avant de servir. Aucun mot n'est nécessaire, les deux hommes se sont compris. Après 3h32 de jeu, le voilà enfin le point de la victoire finale. Seul de son côté du court, raquette à la main, Forget repense brièvement à une interview qu'avait donnée Noah lors de sa victoire face à Mats Wilander. Il avait joué le point décisif sur un service et il avait frappé là où il savait que son adversaire était le plus faible. Alors Forget inspire, souffle un grand coup, regarde Noah, il lui fait un clin d'œil. Le capitaine est assis sur le banc, les mains croisées, comme s'il priait. La faiblesse de Sampras, s'il en est une, c'est son revers. Guy Forget choisit donc un service puissant sur la gauche du court pour obliger l'Américain à utiliser son revers. La suite, c'est l'un des plus beaux et des plus grands moments de l'histoire du sport en France, vécu en direct par des millions de personnes.
Service Forget, un service qui est un service suivi au filet. Volée de Forget, la balle n'est pas terminée, c'est terminé.
C'est fini, Michel.
C'est fini. C'est fini. Oh, c'est fini. Oh là là. Extraordinaire. Quel moment d'émotion ici en direct.
6-6.
3-6. Il n'a
pas vu. 6-4.
Il a fallu attendre
59 ans après sa dernière victoire en Coupe Davis, l'équipe de France masculine de tennis réalise un immense exploit et s'adjuge le saladier d'argent au détriment de la meilleure équipe du monde. Une victoire exceptionnelle qui balaie toutes les critiques contre cette équipe et son capitaine décidément pas comme les autres. Une victoire célébrée par un tour de terrain sous les applaudissements du public au son de la Marseillaise et de Saga Africa, la chanson de Yannick Noah. 1932 était l'année des mousquetaires, 1991 fut celle du sacre des Lecomte, Forget, Noah, c'est déjà loin, mais qu'est-ce que c'était bien.
Attention, saga, ambiance.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Coupe Davis 91, le sacre des Français. Notre invité, Henri Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Finaliste de Roland-Garros en 88 et donc vainqueur de la Coupe Davis 3 ans plus tard. Et à ses côtés, le spécialiste du tennis sur les antennes de Radio France, notre confrère et ami Fabrice Abgral, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour l'écriture de ce récit, nous nous sommes appuyés sur votre excellent ouvrage, Fabrice, ouvrage que vous avez co-écrit avec François Tommaso, qui s'appelle Coupe Davis 91, La France qui gagne. Et Henri Lecomte, vous, vous avez encore plein de souvenirs dans la tête. Je voulais savoir ce que vous avez ressenti en écoutant le récit de vos exploits. Et puis, il y a eu tellement d'ascenseurs émotionnels pour vous pendant ces 3 jours. Quel a été le moment le plus fort, quand même?
Le moment le plus fort, c'est les 3 jours, mais le moment le plus fort, c'est quand je bats Pete Sampras, bien sûr, le premier jour, qui était quelque chose de primordial. Mais quand je vous ai écouté, j'adore la radio, parce que c'est vraiment, les émotions sont là, on ressent vraiment les choses, et vous l'avez très bien retranscrit, et tout le travail qu'a pu faire Fabrice est aussi exceptionnel dans son livre. Mais c'est vrai que ce moment-là, on sent que on rentre dans le vif du sujet. J'étais pas attendu, j'étais un petit peu le D'Artagnan qui arrive pour sauver un peu son équipe, et puis qui passe par un moment assez incroyable, extraordinaire, dont j'ai réussi à rester pendant ces 3 jours.
Qu'est-ce que disait la presse, Fabrice Savgral, du retour finalement d'Henri Lecomte, parce qu'il y a eu une période oui. un peu compliquée quand même. Qu'est-ce qu'on disait? Ça ne devait pas être forcément Fabrice.
Non, c'est pas ça. C'est que tout le monde se posait la question de savoir pourquoi Yannick Noël allait faire confiance à Henri Lecomte. Il faut quand même savoir que, enfin, au mois de juillet-août, Henri Lecomte ne pouvait plus toucher une raquette. Enfin, c'était terminé. Il était blessé au dos, il ne marchait plus. Et Yannick Noah lui annonce qu'il va jouer la finale après la victoire en demi-finale contre la Yougoslavie. C'était à Pau. Yannick Noah le convoque dans sa chambre et il lui dit « Henri, j'ai besoin de toi pour la finale. Tu fais ce que tu veux, tu te prépares comme tu veux, tu te répares comme tu veux. » Mais tu seras en finale contre les États-Unis. Henri va mieux le raconter que moi.
Oui, j'allais lui passer la parole.
Il tombe, ouais. Mais il pleure. Il pleure parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Yannick Noah lui fasse cette proposition.
Vous confirmez, évidemment. Bah,
je confirme, oui, parce que la proposition, lorsque vous êtes convoqué dans la chambre de Yannick avec Patrice Hagelauer...
Parce qu'il était spectateur à Pau, hein.
Moi, j'ai
dit, regardez.
Oui, je marchais à peine. Ils m'ont dit, bon, viens encourager les copains. Donc, je vais encourager les copains. Donc je m'attends à faire la même chose. Il me dit, écoute, bah, tu vas venir à Lyon, et puis tu vas les supporter, puis tu vas couper les citrons, et tu vas les encourager. Et lorsque vous attendez pas du tout à cette réponse-là, on vous dit, écoute Henri, on va gagner la Coupe Davis, mais avec toi. Alors tu vas partir en centre de rééducation avec Patrick Chamagne, à Douarnenez, Tréboule, et tu vas bosser, et puis on va faire à chaque fois quelques tests, semaine après semaine, et puis si ça va bien, bah, tu vas jouer en double avec moi à Bercy, et puis de fil en aiguille, ça a fonctionné. Et là, j'ai bossé, mais j'ai compris que j'avais une solution. J'avais quelque chose, une deuxième vie pour pouvoir marquer l'histoire et faire quelque chose.
Il était en mission, en fait.
Oui, bien sûr.
Il était parti en mission, là. Vraiment.
Donc, sous la houlette de Noah, on a dit à quel point il a été déterminant dans la victoire par son comportement. Parlez-moi de lui en tant que capitaine d'équipe. C'est coach, un homme, sélectionneur.
Bah, c'est mon pote, c'est un homme, il me connaît bien, on se connaît bien, on s'est suffisamment joué l'un contre l'autre, ou que ce soit Roland-Garros ou dans d'autres stades, que pour se connaître. On a à peu près le même caractère, la même ambition, la même aussi forte personnalité. Il savait très bien comment me parler, comment me dire voilà, Henri, on t'aime, on est avec toi. Parce que moi, au départ, tout ce que je voulais, c'est être aimé. Donc, il me dit on est avec toi, on t'aime, on va tout faire pour que tu sois dans les meilleures conditions. Et puis c'est un grand frère. Il est capable. Yannick, c'est un grand nounours. Hein. Il a son caractère, mais il a aussi sa fragilité. Et on se connaît tous très très bien. Et c'était la force de Yannick, c'est qu'il connaissait exactement ce qu'on a pu ressentir, que ça soit Guy Forget, Henri Lecomte, Arnaud Butch, Olivier Delettre, parce qu'il arrive très très bien à nous comprendre, à analyser la situation.
Vous avez dit, moi, mon but, c'était d'être aimé. Pourquoi dites-vous ça?
Parce que c'était avant tout cela, vous voulez qu'on m'aime, je voulais que je sois le meilleur possible, mais avant tout aimez-moi, parce que j'ai l'impression d'être pas être aimé et d'être. C'est aussi une autre chose que j'explique maintenant dans un autre livre que je viens de sortir, mais c'est ça qui était important pour moi. C'était mes valeurs, voilà. Si vous m'aimez, moi je vous aime, et alors là je vais tout vous donner.
Yannick Noël lui a donné tellement d'amour qu'il faut quand même savoir qu'il est revenu à son meilleur niveau. À l'entraînement, mais il jouait comme dans un rêve, quoi. Mais ils étaient tous bluffés, quoi. Yannick Noah, Patrice Hagelauer, Eric De Blicquer. Mais ils disaient, mais c'est pas possible, c'est un avion. À tel point, il jouait tellement bien que pour pas saper le moral de Guy Forget, Yannick Noah a interdit à Henri Lecomte de jouer à l'entraînement contre Guy Forget.
Parce que votre problème, c'était un problème physique, vous étiez blessé. C'était ça ou c'était mental ou physique?
Non, c'était vraiment physique. J'ai eu trois hernies discales opérées. J'ai eu la première en 87, 89 et 91. Donc la dernière, c'était encore une récidive, donc je me suis fait opérer vraiment fin août. Et puis je suis allé voir le match de Coupe Davis à Pau.
Puisqu'on parlait de Noah, je vous propose d'écouter une première archive exclusive. Il s'agit d'un extrait de l'interview de Yannick Noah, réalisé par vous, Fabrice Abgral, et jamais diffusé à la radio. Et dans l'extrait que vous allez entendre, le capitaine des Bleus partage ses souvenirs.
C'est notre victoire. Ce qui est important, c'est que moi... je suis sur la photo du plus beau moment de tennis de mes potes. Ce qui m'intéressait, c'était l'étreinte. C'était pas la gloire, c'était l'étreinte. Voir ta putain de gueule, comment tu vas me regarder quand on va gagner le truc et qu'on va rentrer dans le vestiaire. C'est ça que je voulais, tu vois. Je veux voir vos gueules quand vous allez gagner le bordel. Vous allez voir ce que ça fait. Parce que tu sais que c'est un truc qui a vie. On est lié à vie par ce truc-là, quoi.
Je voudrais voir vos gueules quand vous aurez gagné le bordel. Ça dit tout, Noah, cette façon de parler.
C'est exactement Yann. C'est C'est pour ça qu'il l'a. Vous savez, moi j'ai joué beaucoup avec Yannick, on a fait beaucoup de Coupe Davis ensemble, on a perdu en 82. C'était son rêve de Yannick de gagner cette Coupe Davis. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On avait joué aussi les États-Unis, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Mais voilà, il voulait vraiment qu'on la gagne. Et comme il le dit, il a vécu 83 avec cette victoire à Roland-Garros. Il l'a senti, ça. Voilà, quand on rentre dans le vestiaire et qu'on voit qu'on a gagné ce bordel, comme on dit, comme il dit, et ben il voulait le faire pour nous et il voulait, voilà, nous voir vraiment avec cette gueule de, voilà, de dire on a créé quelque chose d'incroyable, on a gagné un truc de fou, quoi.
Ouais. Et Fabrice Abgral, dans votre livre, vous insistez sur le fait que cette victoire de 91 a été une sorte de déclencheur pour d'autres compétitions par équipe.
Ah bah clairement, il y a un avant et un après 1991. Ça c'est évident, c'est vrai, c'est la naissance de la France qui gagne, quoi. C'est-à-dire que avant 91, on était les losers magnifiques, quoi. C'était France-Allemagne 82 Coupe du Monde. La France est battue, l'équipe titre, fabuleux.
Ouais.
Fabuleux. Ouais, pour une défaite.
Oui.
En 1976, les Verts de Saint-Étienne descendent les Champs-Élysées
alors
qu'ils ont perdu la finale. C'est-à-dire que ça rendait fou, Noah, ça. Ça le rendait dingue. Ils disaient, mais comment on peut faire, quoi? Alors, à l'époque, c'était, en effet, le sport en France, c'était des individualités, essentiellement. C'était Yannick Noah, c'était Alain Prost, c'était Bernard Hinault, c'était Laurent Fignon, c'était Serge Blanco, c'était... Voilà, c'était des individualités. Alors, il y a un contre-exemple avec l'Euro 84...
La France du football.
Que la France gagne, mais attention, c'est la victoire d'un homme. C'est la victoire de Platini
oui.
Avec 9 buts dans la compétition, c'est toujours un record. Donc en fait, c'est ça le problème en France. Et en fait, Yannick Noah, Henri Lecomte et Guy Forget ont simplement décomplexé le sport français. Et tout s'enchaîne derrière.
98, football. Bah,
oui, mais avant, il y a quoi? Limoges qui remporte la Coupe d'Europe de basketball.
L'OM.
Contre Trévis de Koukoc.
L'OM.
1993,
l'OM champion.
Un mois après, l'OM.
Ouais.
1995... L'équipe de France de handball qui devient pour la première fois championne du monde, les Barjots. Le Paris Saint-Germain qui remporte la Coupe des Coupes en 1996 avec, entre parenthèses, Yannick Noah dans l'équipe du Paris Saint-Germain.
Exact. Puisque
Michel Denisot demande à Yannick Noah de rebooster ses joueurs parce qu'il sentait que ses joueurs étaient un petit peu fébriles. Non mais tout s'enchaîne. Et puis évidemment 98. Mais tout s'enchaîne derrière.
Ouais,
et
clair.
Ils ont décomplexé le sport français. Vraiment, c'est une première victoire collective. Alors le tennis c'est individuel. Mais là, c'est une victoire collective. Et Yannick Noah a prouvé que même quand on n'est pas favori, on peut gagner.
Et bien justement, à votre micro, Guy Forget revient sur le rôle déterminant de Yannick Noah dans cette victoire.
Je pense une belle aventure humaine de copains, emmenée par Yannick Noah, qui était notre locomotive, notre grand frère. Et il caressait ce rêve, bien sûr, de gagner d'abord pour lui Roland-Garros, et puis un jour gagner la Coupe Davis. Alors il ne l'a pas fait en tant que joueur, mais il nous a... aider à le faire en tant que capitaine et je crois qu'on lui doit aussi beaucoup sur cette victoire de Lyon dans cet après-midi de décembre 91 parce que Henri, Arnaud, Fabrice, Olivier, enfin tous ceux qui étaient là, on a nous aussi à notre tour réalisé notre rêve.
France Inter. Sensible.
Fabrice Abgral, Fabrice Santoro ne joue pas cette finale, mais il est là quand même.
Il est sur la photo. Il est sur la photo, Fabrice Santoro. C'est vrai qu'il n'a pas été retenu parmi les quatre. Et c'est vrai que pour lui, ça a été un déchirement vraiment total. Quoi.
Ouais.
C'était une déchirure totale. Et c'est vrai qu'il méritait de participer à cette finale. Tout simplement parce que en quart de finale, c'est lui qui qualifie la France pour les demi-finales face à l'Australie. Mmh. C'est lui qui marque le cinquième point. En demi-finale face aux Yougoslaves, il marque son point. Et sincèrement, il pense jouer la finale. Il n'a que 18 ans à l'époque, hein, Fabrice Santoro. Mmh. Il n'a que 18 ans. Et c'est vrai qu'Yannick Noah laisse planer le doute sur sa participation. Pourquoi? Parce qu'il participe au tournoi de Toulouse. Et il participe au tournoi de Toulouse pour préparer Bercy. Il participe à Bercy. Et le tirage au sort lui donne Fabrice Santoro au premier tour. Et c'est terrible pour Fabrice Santoro. Il reçoit une pression.
Il donne Noah au premier tour.
Oui, enfin, Noah reçoit Fabrice Santoro au premier tour, au tirage au sort.
Okay.
Et là, c'est terrible parce que Fabrice Santoro sait qu'il joue sa sélection. S'il bat Noah...
Il fera la finale.
Il fera la finale. Mais non, en revanche, Noah lui dit, attention, il nous dit en conférence de presse, s'il ne me bat pas, c'est qu'il n'a pas les épaules pour faire une finale. Et il ne bat pas Noah. Et donc là, c'est terrible, il ne sera pas sélectionné. Il se sent trahi un petit peu, Fabrice Santoro. Mais Yannick Noah... C'est le côté humain
bien sûr.
De Yannick Noah. Le fait venir sur la photo, il lui donne sa coupe sur la photo, il lui donne sa coupe et Yannick Noah n'a pas de coupe.
Donc, qu'est-ce qu'il prend ?
Davis. Il prend le saladier. Sur la photo, il prend le saladier d'argent.
Fabuleux.
Et ils sont tous les cinq sur la photo. Et Fabrice a la coupe que Yannick n'a pas.
Bon, on lui a donné quand même.
Oui, on s'y revoit après.
Henri Lecomte, le dernier joueur de tennis français à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem, c'est Yannick Noah en 1983. Oui. Vous vous êtes passé juste à côté.
J'ai raté la dernière marche.
Bah oui, mais enfin, vous êtes allé quand même en finale. Bah depuis, c'est, je ne vais pas dire que c'est le désert, mais enfin, on n'a pas de champion, on n'a pas de trophée. Quel est votre regard sur le tennis français ?
Le regard, c'est surtout par rapport aux autres joueurs qui ont énormément évolué. Je pense qu'il faut qu'on aille vraiment voir ailleurs, comme nous, on a tous fait, que ce soit même Yannick, que ce soit moi, que ce soit même Guy Forget, pour arriver dans les meilleurs joueurs du monde et aller pouvoir titiller ou gagner un grand chelem. Il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il faut aller s'entraîner aussi différemment. Et puis aussi, vous savez, on a beau dire que oui, on n'a pas les entraîneurs, on n'a pas les joueurs. On a les entraîneurs, on a les joueurs, mais après, c'est à eux de prendre la propre décision, de pouvoir y aller. Mmh. On met un cheval devant l'abreuvoir, s'il n'a pas envie de boire, il ne va pas boire. Je veux dire, c'est avant tout leur propre décision à prendre, de pouvoir faire les efforts nécessaires pour pouvoir rêver de gagner un grand chelem. Dans certaines générations, on dit, ouais, mais bon, cette génération-là, elle est beaucoup trop forte. C'est pas vrai, parce que c'est dans chaque génération, il y a eu des moments, des passages où on a envie de battre les meilleurs joueurs du monde. Il y en a d'autres qui préfèrent rester où ils sont très contents. Donc c'est plutôt à eux qu'il faut poser la question. Et puis, bah, maintenant, aujourd'hui, il va falloir aussi faire beaucoup de changements au sein de la fédération pour pouvoir aller chercher quelque chose d'encore plus performant. Regardez les Italiens, on en parlait hors antenne.
Ils ont monté une école.
La fédération, le président a ouvert un petit peu ses œillères en disant « je vais aller voir ailleurs ce qui se passe ouais. ». Je pense qu'on a tout pour, mais il faut le faire, il faut prendre les décisions.
Bien, et ça sera le mot de la fin.
Merci.
Henri Lecomte, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Fabrice Abkral d'être venu jusqu'à nous. Vous n'avez qu'un étage à franchir, vous. Mais non. Merci d'être venu quand même. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Coupe Davis 91. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur l'application de Radio France ou sur le site internet franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Enzo d'Hospital.